Avant de procéder avec la prédication, prions. Nous venons de chanter, Seigneur, que ta parole est notre appui. Et nous te demandons que cela soit le cas aujourd'hui et tout au long de cette nouvelle année académique qui s'ouvre, que nous soyons un peuple uni en Jésus-Christ et donc un peuple qui se soumet à ce que toi tu nous dis par ton esprit dans ta parole. Donne-nous donc de comprendre ce que tu as à nous dire et que nous puissions donc être un peuple qui s'attache fermement à toi tout au long de cette année. Que ton amour soit notre abri. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, quelle joie, chers amis, d'être de nouveau parmi vous. Peut-être que vous êtes là pour la toute première fois, donc c'est super, on se croise ensemble pour la première fois. Peut-être vous avez dit où était le pasteur pendant un petit temps. Il était un peu ailleurs et il est content de se retrouver avec vous dans ces locaux. Je vois que déjà certaines personnes ont un peu chaud. C'est normal, le soleil passe par là et donc j'ai un projet de parler pour suffisamment de temps que le soleil puisse passer derrière. Et donc ne vous inquiétez pas, vers la fin, vous serez dans la joie. Si jamais vous êtes vraiment en difficulté parce qu'il fait chaud, on comprend qu'il fait un peu chaud, il y a un peu d'eau juste derrière. Peut-être c'est bien que pas tout le monde passe tout de suite lors du premier mot de ma prédication, chercher de l'eau. Mais sachez que si vraiment vous en avez besoin, quelqu'un peut discrètement aller vous chercher un petit verre. Je comprends que pour certaines personnes, c'est utile. Alors, c'est une joie aussi de voir de nouvelles personnes parmi nous qui viennent de démarrer. Quelques personnes en visite des États-Unis. Un nouveau bébé, si je peux le dire, que j'ai vu un peu derrière, qui amène beaucoup de joie ou de joy à sa famille. Donc, nous sommes aussi dans la joie de la voir. Arsène et Alice, je ne pense pas qu'il est là, c'est la semaine prochaine ou c'est bientôt, donc on aura de la joie à accueillir les nouveaux. Mais nous accueillons aussi des nouveaux stagiaires qui démarrent avec nous. On aura l'occasion de vous les présenter à fur et à mesure que le semestre commence, qui vient de travailler pour l'Institut biblique, des anciens stagiaires aussi avec nous. Donc, bienvenue, chers amis, à vous. Mais j'aimerais aussi juste dire un tout petit mot de bienvenue à Suzanne. Suzanne, c'est la sœur de Paulin et elle est ici avec Paulin et Irène à côté. Suzanne m'a chaleureusement accueilli dans le Nord Kivu lorsque j'y étais il y a 8 ans, je pense, pour aider l'œuvre du Seigneur dans ce coin. Nous avons beaucoup prié en tant qu'Église pour le Nord Kivu. Nous continuons à voir à ce qui se passe dans le Nord Kivu. Et nous sommes privilégiés, Suzanne, que tu sois avec nous. Nous sommes dans la joie qu'enfin tu as pu avoir une visa pour nous rejoindre. Et nous prions que le Seigneur te bénisse et bénisse aussi son œuvre dans ce pays. Et nous voulons continuer à prier pour cela. Donc bravo que tu sois avec nous. Je pense qu'on peut applaudir notre Suzanne parce que c'est rare qu'elle soit là. Voilà. Voilà, c'est la fin de la partie supplémentaire annonce. Maintenant, si vous retrouvez le livret, vous allez voir un plan de ce que je compte vous dire ce matin. Et si de nouveau vous ouvrez le milieu du livret, vous trouverez le texte. Et peut-être on va faire référence à 2-3 autres versets. Donc si vous avez vous-même cela ouvert dans votre téléphone ou votre Bible, peut-être vous trouverez cela utile. J'ai envie de prier, mais on a déjà prié. Donc, on y va ensemble. Alors, maintenant, vous imaginez, ce n'est pas difficile pour la plupart d'entre nous, que vous êtes en vacances et vous êtes en train de faire une randonnée et vous suivez bien le chemin qu'indique l'application sur votre téléphone pour randonnée que vous avez installé exprès pour cela. Et puis, vous croisez quelqu'un lors de la randonnée qui a l'air de bien connaître le coin. Et il vous dit, vous savez, oubliez ce qui est indiqué sur votre application. La bonne voie, c'est plutôt par ici. Maintenant, vous discutez aussi avec quelqu'un par rapport à une décision importante à propos d'un placement de votre argent. Vous appréciez les conseils qui semblent être sages à propos de ce que vous voulez faire. Et ensuite, juste après, vous lisez un article que quelqu'un d'autre vous a envoyé Et tout d'un coup, dans votre esprit, il y a un peu de doute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes clair, peut-être, dans votre esprit par rapport à ce que vos parents vous ont conseillé à faire. Et pourtant, à l'école, des amis vous disent qu'il n'y a pas de mal à faire l'opposé. C'est parfois perturbant, n'est-ce pas, d'avoir deux voix différentes. Comment s'y repérer? Alors, de même pour un chrétien, vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, quand on vous a dit que Jésus est mort sur la croix pour que vous puissiez être pardonné de vos péchés. Et ensuite, vous croisez d'autres soi-disant chrétiens qui te disent que ce qui compte dans la foi, ce n'est pas la doctrine de ce que Christ a effectué sur la croix, mais c'est surtout l'enseignement de Jésus par rapport à l'amour pour notre prochain qui compte. Ça peut être un peu déstabilisant, n'est-ce pas? Penser être sur la bonne voie et ensuite être confronté par une autre foi, effectivement, est déstabilisant. 1 Jean, ce que nous venons de commencer à lire dans ce texte qui se trouve dans le livret, cette épître a été écrite de manière semblable parce que l'apôtre Jean était inquiet par rapport à l'apparence dans des églises que lui, il connaissait, l'apparence des chrétiens assez influents qui minaient la confiance des chrétiens orthodoxes. Il s'appuyait sur une version de la foi qui minimisait l'importance du monde matériel, physique, et qui favorisait ce que eux ils croyaient être un peu plus spirituel. Par conséquent, ils tournaient le message de Christ vers un message qui ne ressemblait pas du tout au message que les premiers disciples ont proclamé. Et cela troublait l'apôtre d'entendre parler de ces soi-disant chrétiens, car il voyait ses brebis troublées. Suis-je sur la bonne voie, oui ou non? Troublé dans la croyance, troublé dans l'assurance. Suis-je, après tout, un disciple de Jésus-Christ authentique? Et comment savoir ce que on m'a enseigné est juste pour finir, oui ou non? Et donc, à la fin de son épître, on n'a pas ce verset dans le livret, chapitre 5, verset 13, on entend le but de l'apôtre Jean, « Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Il commence à avoir des doutes. Donc, il écrit pour qu'il sache qu'ils aient la vie éternelle. Jean, dans son exposé, il se limite à 3 ou 4 thèmes dans l'ensemble de ce qu'il va dire. Mais des thèmes majeurs qui sont fondamentaux pour le croyant en Christ. Et ces thèmes ont encore toute leur pertinence pour nous, ici, à notre époque, bien que notre contexte ne soit pas identique de ceux qui ont tout d'abord lu cette épître. Et donc Dieu, de par cette épître, il va nous aider également à creuser ou à retrouver notre confiance, nos repères en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette introduction « Deux repères indispensables à notre foi commune ». C'est avec Jésus qu'il commence donc son discours. Donc d'abord, l'incarnation, la vie a été manifestée. Ce qui frappe tout de suite, c'est la façon un peu énigmatique par laquelle Jean démarre. Chapitre 1, verset 1, comment est-ce qu'il démarre? Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. En fait, il faut attendre le verset 3 avant que le verbe principal soit déployé par l'apôtre Jean. Nous vous l'annonçons. avant d'arriver au verset 3, Jean attire notre attention sur le drame de ce qu'ils annonçaient de par cette première phrase. Ce qu'ils annonçaient concernant la parole de la vie. La vie, c'est la personne de Jésus. Verset 2 rend cela explicite, car il parle de la vie qui a été manifestée, une vie qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Et donc, qu'apprenons-nous au sujet de cette parole de vie? Le verset 1 démarre en disant « ce qui était dès le commencement ». Jean évoque, lorsqu'il dit cela, le début de son évangile, l'un des quatre récits de la vie et de l'œuvre de Jésus. Qu'avait-il dit dans Jean 1, verset 1? Ici, nous sommes dans 1 Jean 1, verset 1. Dans Jean 1, verset 1, il a dit « au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ a des débuts bien plus loin que sa conception dans le ventre de Marie. Il était avec Dieu car il était Dieu, Dieu le Fils, et il est dès le commencement. Alors aidez-moi ici. Puisez dans votre imagination pour un instant pour aller aussi loin que possible en arrière de notre existence ici sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc, dans votre imagination, maintenant, commence à reculer. Avant les smartphones, avant la pomme de terre, avant les Romains, avant même les dinosaures, avant la formation même des montagnes et des continents, avant même les planètes et les étoiles. À ce moment, qu'est-ce qu'il y avait là où vous êtes dans votre imagination? À n'importe quel moment où vous êtes allé dans votre imagination, Dieu, il est là. Le tout premier verset de la Bible nous dit ceci à propos de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et à ce même moment, là où vous étiez dans votre imagination, dans ce même endroit, si vous voulez, avant que tout existe, là où il n'y avait que Dieu, vous trouverez également Jésus-Christ, le Fils éternel. Encore verset 2, il était cette vie éternelle auprès du Père. Et nous disons, ce Fils-là, dès le commencement, il est devenu homme. À un point comme tout autre homme, nous aurions pu, si nous étions au bon endroit, au Moyen-Orient, il y a à peu près 2000 ans, nous aurions pu entendre, voir et même toucher cet homme qui est là dès le commencement. Il s'est manifesté. Le Fils est venu réellement, physiquement, historiquement, humainement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons touché, dit Jean. Et peut-être vous entendez un peu la progression de concrétisation de ces choses qui sont rendues tangibles dans ces versets. Avant-hier, j'étais au lit et j'entendais des voisins bruyants qui fêtaient un truc toute la nuit, tout près de là où il y avait notre fenêtre. À 3h du matin, j'ouvre dans la fenêtre dans l'espoir de pouvoir leur demander, poliment, vous comprenez, de se calmer. Mais je ne les ai pas vus de ma fenêtre. Ça m'a frustré parce que j'ai voulu les voir pour pouvoir faire ce contact visuel. Et comme je ne les ai pas vus, je n'osais pas crier pour leur demander de se taire. Mais même si je ne les ai pas vus, ils y étaient. Je les entendais. Ensuite, il y a voir, ou le contempler, comme dit Jean après. Mais là aussi, parfois, ça m'arrive de voir quelque chose. Est-ce que cela vous arrive? Est-ce qu'un tel était là aujourd'hui, à l'église? Oui ou non? Je pense l'avoir vu, je dis à Benjamin de temps à autre. Et il me dit, non, je ne pense pas. Donc, je ne suis pas certain. Et ensuite, après, le voir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a touché. Lorsqu'on touche quelqu'un, c'est le plus tangible de tous nos sens. Jésus, dans Luc, chapitre 24, après sa résurrection, disait ceci à ses disciples. « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. » Ce que nous disons, nos mains ont touché. Nous avons affaire bel et bien à ce que nous appelons donc l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour de vrai. Certains, un peu après l'époque de cet épître, commençaient à dire que Jésus n'était rien qu'un homme normal, et ensuite le Christ, la partie divine de Jésus-Christ, pour eux si vous voulez, il est venu sur cet homme normal pendant un temps, et puis un peu après, il l'avait quitté pour le laisser souffrir et mourir. C'est faux. La vie éternelle qui était avec Dieu dès le commencement, auprès du Père, il est devenu homme. Il a pris sur lui, sur sa nature, la chair humaine. Mais pourquoi cela est-il aussi important pour Jean? Pourquoi un repère aussi indispensable? Car c'est certain cela. Dieu, le Créateur, a décidé, il y a environ 2000 ans, d'intervenir dans notre histoire. Est-ce que vous savez que parfois le réalisateur d'un film se fait plaisir d'apparaître lui-même brièvement en jouant un rôle dans le film qu'il a tourné? Je me souviens toujours de mon père qui prenait toujours du plaisir lorsqu'on regardait un film Hitchcock à nous indiquer dans la famille lorsque c'était Hitchcock lui-même qui jouait un rôle, c'était toujours un tout petit rôle dans le film. « Le voilà !» il me disait chaque fois. « C'est lui, c'est Hitchcock !» Dieu lui-même décide de faire son entrée dans notre histoire. C'est inouï cela. Et c'est là-dessus que l'entièreté de notre foi dépend. Si Jésus n'était pas Dieu en chair humaine, la foi chrétienne s'écroule. Car la foi chrétienne n'est pas une philosophie, un système religieux qu'on nous propose. Elle n'est pas non plus une expérience mystique de la divinité. Elle est fondée entièrement sur la réalité historique qu'à un moment donné, en Jésus-Christ, Dieu est intervenu dans notre histoire. Il s'est manifesté. Comprenons bien ce que cela signifie. Notre foi chrétienne n'est pas premièrement donc une opinion religieuse parmi d'autres. Aujourd'hui, avoir une croyance religieuse, c'est compris comme une opinion purement personnelle à propos de Dieu qui n'est ni vérifiable ni forcément accessible aux autres. C'est lié à ton expérience, à ta culture, ta sensibilité religieuse. Cela n'a rien à voir avec ce qui est de vrai, réel, historique. Bien que nous dirions que c'est réel dans le sens privé et personnel pour toi. C'est ta vérité, je suis content pour toi. J'ignore combien de fois quelqu'un m'a dit qu'ils ne peuvent pas partager ma foi, car pour eux, la religion, ce n'est pas le truc. Ou pour eux, le côté cartésien ne permet pas de croire comme moi je crois. Ils veulent toujours être polis, normalement, en me disant cela. Je respecte ta prise de position, tu sais. Mais sous-entendu, il y a ceci. Je ne suis pas aussi crédule que toi, tu sais. Alors, quelle arrogance de nous dire cela. Nous, les petits religieux irrationnels. Montre-moi, historiquement parlant, que Jésus n'était rien qu'un homme, et je suis avec toi, tu sais. Fini la foi chrétienne pour moi et pour vous. La raison en elle-même ne peut pas faire naître la foi, C'est important de le savoir. Mais la raison, entre autres, me pousse à faire face à ce qui était entendu, vu, contemplé et touché, historiquement parlant, ce message de la vie. Justement, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Dieu est venu, une réalité historique. Et si nous le rejetons, cela signifie d'office que nous croyons autre chose à propos de ces événements autour de Jésus-Christ, ces événements historiques. Et jusque-là, je ne trouve pas cette autre chose convaincante. Donc, unique à la foi chrétienne est la déclaration qu'en Jésus-Christ, Dieu est venu sur terre. Ce message-là, c'est ce message-là qui nous a été annoncé, nous dit l'apôtre Jean. Cette affirmation n'a rien à voir avec mon état mental, ma disposition religieuse ou autre. C'est ancré dans ce qui a eu lieu concrètement ici sur terre. C'est un repère indispensable que souligne Jean. Mais comment est-ce que le monde a pris connaissance de ce repère, de cette incarnation? Et cela nous mène à son deuxième repère indispensable, le témoignage des apôtres. Nous vous l'annonçons. Jean, il fait exprès de souligner ceci. La première fois qu'on entend un « vous » dans ce texte, c'est quand? C'est au verset 3. Avant, il s'agit des « nous ». Le verset 2 explique pourquoi. Verset 2, « Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Vous entendez cela? Nous, ce sont des témoins. Car ce n'est que les témoins qui ont vu, qui ont entendu, qui ont touché le Seigneur Jésus-Christ. Forcément, ce n'est pas moi qui ai vu Jésus dans la chair. Ce n'est pas vous non plus. C'était eux, les témoins. Encore aujourd'hui, dans la justice, nous faisons appel à des témoins pour établir des faits. Si Dieu est venu en chair humaine, y avait-il des témoins? Oui. Nous, les autres, nous dépendons de leur témoignage. C'est ces témoins oculaires. Nous les appelons des apôtres, appelés et envoyés par Jésus-Christ pour être ses témoins. Et alors, verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. » Il faut être bien clair, donc, avec cette distinction entre le « nous » et le « vous », car c'est un autre repère indispensable. Une foi chrétienne authentique est une foi chrétienne qui se fie et dépend du témoignage des apôtres. C'est sur base de ce que eux ont entendu, vu et touché que nous leur accordons une place toute particulière lorsqu'il s'agit de la foi. On verra en progressant dans l'étude de cette épître que des faux enseignants qui circulaient ne reconnaissaient plus l'autorité de ces apôtres, le message qu'ils proclamaient. Ils se disaient à la hauteur eux-mêmes des apôtres, et donc en mesure de changer ce que ces témoins ont dit pour proposer des nouveautés, ces nouveautés qui rendaient le peuple de Dieu confus et soucieux d'être sur la bonne voie. Et il y a encore aujourd'hui, il y a plein de soi-disant enseignants dans l'Église chrétienne qui pensent pouvoir, de par une inspiration privée et personnelle, dévier de ce que Dieu nous a révélé définitivement en Christ. Et cela par le message que les apôtres ont proclamé. Cela peut avoir l'air très interpellant lorsque quelqu'un parle de cette manière-là, très spirituel. Mais ce n'est pas pour autant authentique tant qu'il n'accorde pas, tant qu'il ne se soumette pas à ce que Dieu nous communique à travers le témoignage des apôtres. Et où se trouve ce témoignage? Leur témoignage se trouve dans les pages du Nouveau Testament. Donc, si nous affirmons que Dieu parle encore aujourd'hui, nous devons bien comprendre par là que Dieu parle encore aujourd'hui à travers ce qu'il nous a parlé par ses apôtres. dans la Bible. Nous ne voulons pas dire, lorsque nous disons que Dieu se révèle aujourd'hui, que tout comme il s'est révélé aux apôtres, il y a 2000 ans à ses témoins, il se révèle de la même façon encore à moi. Non. Sa révélation, sa parole de la vie s'est manifestée à un moment précis. Et c'est son dernier mot par rapport à ce qu'il a à dire, son mot définitif. Et c'est ce même message proclamé par les apôtres que Dieu continue par son esprit à nous révéler aujourd'hui. Ce n'est pas un autre message qu'il révèle. Et donc nous devons faire attention, je pense, à notre langage lorsqu'on parle de ces choses. J'ai l'impression que même parmi nous, il y a parfois un peu de confusion sur ce point. Quand nos impressions, nos ressentis, nos expériences ne sont pas des moyens par lesquels Dieu nous parle aujourd'hui. Voilà pourquoi nous accordons la place principale à la parole de Dieu, la Bible, au sein de l'Église. Voilà pourquoi on prêche encore des textes de la Bible. Nous ne cherchons pas à proclamer notre propre message, mais plutôt le message de la Bible, le message qu'on appelle apostolique, ça vient des apôtres. Car Dieu se révèle à nous aujourd'hui par ce message apostolique, le message de Jésus-Christ, le message que les apôtres ont proclamé. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas qui que ce soit qui vient au nom de Dieu vous parler de qui peut faire court-circuit des apôtres. Si Dieu nous parle, c'est à travers eux. Et cela ne signifie pas que l'Esprit de Dieu n'est plus à l'œuvre parmi nous. Si, car lorsque nous proclamons la vérité qui vient de Dieu, le message de la Bible, Dieu, par son Esprit, est à l'œuvre pour nous ouvrir des yeux. Donc, deuxième repère indispensable pour notre foi, c'est le témoignage des apôtres. Si je suis leur enseignement, si je me soumets à leur instruction, je dépends de leur témoignage, je suis sur des bons rails. Car Dieu s'est manifesté à eux. Sans cela, nous sommes perdus dans un subjectivisme infernal. Moi, je crois que Dieu dit ceci, toi, tu crois qu'il dit cela, un autre croit qu'il dit encore autre chose. Ça ressemble au paganisme où chacun réclame leur petit Dieu à eux. Mais dans le christianisme, il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est révélé à nous de façon à ce qu'on peut le connaître, de par Jésus-Christ, tel que les premiers témoins l'ont entendu et l'ont vu. Ne soyons donc pas perturbés par ceux qui dévient du témoignage des apôtres. Non, loin de là, réjouissons-nous. Réjouissons-nous de l'impact de leur témoignage. Et nous allons donc terminer en regardant ensemble qu'est-ce que ça change, ces deux repères indispensables. L'émerveillement, la communion et ensuite la joie. Les deux derniers, la communion, la joie, se trouvent directement, je pense, dans le texte. Le premier, l'émerveillement, c'est un peu plus indirect, mais néanmoins, il est là. Et nous commençons avec ça. Parce que Jean, il a pu commencer avec le verset 3, n'est-ce pas? Il aurait pu juste dire, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Cela aurait été légitime. Cela aurait été clair, mais il fait exprès de rendre ce qu'ils nous avaient annoncé, ces apôtres, plus interpellant. Car ce qu'ils annoncent n'est rien de moins que époustouflant. Ce qui était dès le commencement, auprès du Père, depuis toujours, a été manifesté. Et nous l'avons entendu, nous l'avons vu, nous l'avons touché. Vous n'entendez pas le côté un peu d'émerveillement là-dedans. Et donc, du coup, vous osez glisser de temps à autre, penser que la foi chrétienne est un peu banale. Pour la plupart de nos amis autour de nous, le contact avec le divin, avec Dieu, se fait uniquement de façon totalement étrange et bizarre, lors d'un moment d'extase ou de solitude, du moins de façon mystérieuse, de par une technique ou un chant ou une grande cathédrale. Mais c'est très rare pour ceux qui sont autour de nous de penser qu'ils ont le contact avec le divin. J'ai vu récemment le film « Le cercle des neiges » sur Netflix qui raconte l'histoire vraie des survivants d'une équipe de rugby uruguayenne au Chili qui, après le vol, s'écrase dans les montagnes. Ils sont abandonnés, à part les secouristes, et bloqués dans un environnement très hostile, doivent survivre. Et deux d'entre eux arrivent à s'échapper pour sauver les autres. Dans une version précédente de ce film que j'ai apprécié, j'ai vu le début du film qui commençait avec l'un des témoins qui disait ceci. Lorsqu'il était seul dans les montagnes, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Dans les circonstances extrêmes, difficiles, enfin, j'ai vu Dieu. Mais beaucoup de personnes autour de nous pensent de cette manière-là, que Dieu, il est loin, difficile à rejoindre. Mais la découverte de Dieu n'est pas une quête mystique pour certains illuminés. Non, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et ainsi, de par le témoignage des apôtres, je suis en contact avec le divin, sans devoir subir un événement bizarre et traumatique. C'est merveilleux cela, les amis. C'est extraordinaire que nous pouvons connaître aujourd'hui, comme nous le sommes, le Dieu qui est là, le Dieu créateur qui est là dès le commencement. Ne rendons donc pas ce qui est extraordinaire un peu banal. Nous proclamons Christ. Ce Christ qui est venu, qui s'est donné d'ailleurs pour son peuple sur une croix. Et cette vérité, c'est accessible à tous ceux qui se tournent vers lui. Nous devons être encore émerveillés par la foi chrétienne, par Jésus-Christ. Deuxième raison pour se réjouir, la communion. La communion. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous tournons vers lui? Voyons la deuxième raison pour se réjouir, la communion. Car pourquoi verset 3, les apôtres leur ont annoncé ce message à eux aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ils annoncent Christ pour qu'il y ait de la communion avec eux. Et s'ils ont communion avec eux, ils l'ont également avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Alors, lorsque nous lisons le mot « communion », souvent, je pense, nous entendons dans son sens chrétien ce que signifie donc la communion fraternelle. Peut-être, et j'espère que c'est le cas, vous allez rester. Nous allons, à la fin de ce rassemblement, avoir un moment, ce qu'on appelle de communion fraternelle, autour d'un café. C'est ici, à l'étage derrière, si vous vous demandez où ça se trouve. Ou peut-être vous allez rester et échanger avec d'autres ici, dans la cour. Et donc notre communion fraternelle risque de devenir rien qu'un moment un peu creux après l'activité de l'Église lorsque nous nous échangeons quelques nouvelles en toute fraternité. Mais le mot a aussi dans le monde de l'Antiquité une signification pour un partenariat dans une affaire commune. Vous savez, ceci Jean qui a écrit donc cette lettre, il avait un frère Jacques. Et avant d'être appelés par Jésus, ils étaient engagés dans leur activité commerciale, la pêche, une activité commerciale que tenait leur père. Leur père s'appelait Zébédée. Et donc leur activité commune avait sans doute été appelée Zeb et fils, à la pêche. Leur relation à leur père et entre deux frères a fait d'eux des actionnaires dans cette activité familiale, partenaires dans cette activité familiale. Donc, avoir donc de la communion avec des apôtres, c'est de partager avec eux ce même intérêt, cette même activité, de par leur foi dans la vérité qu'ont annoncé les apôtres en Jésus-Christ. Toute communion fraternelle doit donc avoir la vérité du message de Christ comme son fondement. Car sans cela, nous ne sommes pas en communion, bien qu'on boive un café ou qu'on parle à l'extérieur ensemble. Et ça va plus loin encore, car la communion que nous avons l'un avec l'autre est une communion également avec le Père. Jean dit effectivement que vous soyez en communion avec nous, notre communion est avec le Père, avec son Fils, Jésus-Christ. Sans l'incarnation, il n'y a pas de communion, ni entre nous, ni avec Dieu. On ferme l'Église. Notre communion se trouve grâce à l'incarnation. Et donc, nous devons tout faire pour mettre la vérité de Jésus-Christ au centre de notre activité. Sans cela, bien que cela puisse être sympa de jouer la musique ensemble, de boire du café ensemble, d'échanger ensemble, ce n'est pas une communion chrétienne. Notre communion est avec les premiers témoins et avec le Père et avec son Fils. Ce n'est pas n'importe quelle communion, celle-là, chers amis. Et cela nous amène à notre dernière raison pour se réjouir, ce qui est, eh oui, la joie. Jean dit, verset 4, « Ceci nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. » Dans la version biblique des choses, la vraie joie chrétienne découle de la connaissance de Dieu, de ce Dieu qui s'est révélé à nous. Et Jean dit que si vous êtes en communion avec nous, de par votre foi dans le Fils éternel qui s'est fait homme, que nous vous avons annoncé, alors vous vous joignez à nous dans notre joie de connaître le Dieu vivant. Et cela fait notre joie, car il n'y a rien de plus grand, de plus glorieux que de connaître cette communion-là. C'est ainsi que nous avons chanté « Gloire à Dieu !» Gloire à Dieu ! Que ce chant retentisse en tout lieu. Ça vaut la peine de chanter, parce que nous sommes convaincus que c'est glorieux, ce message. La révélation biblique, vous voyez, n'est pas froide, ou dure ou ennuyante. Non, si ce n'est pas à travers notre expérience que nous faisons la connaissance de Dieu de par une quête interne, cela ne signifie pas que cette foi que nous découvrons dans la révélation de Dieu envers nous, envers Jésus-Christ, n'engage pas notre expérience. Non, ça donne suite à une expérience humaine profonde. La joie qui dépasse simplement la joie du moment. Et vous savez, l'expression habituelle de notre communion les uns avec les autres, notre communion avec le Père, a lieu ici, lors de notre rassemblement d'Église, que notre Dieu donc nous garde de réduire cette communion à une simple habitude, ou même parfois une habitude qui suscite en nous un petit soupir de temps à autre. Oh non, ah oui, c'est vrai qu'on a déménagé maintenant au Collège Saint-Michel et je n'ai pas vu que c'est moi qui devais faire le nettoyage cette semaine. Ah, oh, c'est moi qui fais l'installation. Oh là là là, c'est encore moi qui fais la garderie. Ah non, être dans ce grand bâtiment où les chaises sont moins confortables que celles de Schlegers, est-ce que c'était une bonne idée? Non, que notre Dieu nous garde de ce genre d'attitude par rapport à notre communion, qui nous garde également de tout danger d'être motivé uniquement de venir à l'Église parce que c'est mon tour de faire quelque chose que j'aime, c'est mon tour de chanter ou de jouer un instrument, c'est mon jour de pouvoir lire ou prier devant, c'est mon jour de prêcher. Ah bah super, je viens avec de la joie alors. Pourtant, l'Église de Jésus-Christ, sans que je fasse quelque chose, ou bien que je dois faire quelque chose, elle est l'expression de notre communion l'un avec l'autre dans la vérité que les apôtres ont annoncée, une communion avec le Père et son Fils. Il n'y a rien de plus extraordinaire que cela. Donc soyons reconnaissants que notre Église, peu importe la durée de notre séjour dans ces locaux, puisse nous encourager à ne pas nous écarter, mais de rester bien collés sur ces deux repères indispensables, l'incarnation et le témoignage des apôtres. Si vous ouvrez de nouveau votre livret, vous allez voir que nous allons chanter à l'agneau sur son trône. Et la deuxième partie du premier strophe nous dit ceci. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus, Emmanuel. Jésus est venu, Jésus, Dieu avec nous, Emmanuel nous pousse donc à vouloir le bénir, à l'adorer, à l'acclamer. Parce que si nous tenons ferme dans le message apostolique que nous avons encore dans les pages du Nouveau Testament, nous avons de quoi pour être joyeux. Donc je vous invite, chers amis, dans un instant à chanter, mais d'abord moi je vais prier et puis je cède ma place à Ben. Te louons, Seigneur, pour Jésus-Christ. Te louons pour la merveille de l'incarnation. Que ce que ces apôtres ont vu et ont entendu, ils nous avons annoncé. Afin que notre communion soit avec eux, et donc du coup aussi avec toi le Père et avec ton Fils Jésus-Christ. Te louons, Seigneur, pour la richesse et la profondeur de notre foi. Et donne-nous de tenir ferme dans cette foi. Et cela, pour ta seule gloire, nous te prions. Amen.